Aristote, Des rêves. Traduction française de Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Chapitre 1er. Sommaire. À quelle faculté de l'âme se rapporte le rêve? Est-ce à l'entendement ou à la sensibilité? Il y a dans le rêve quelque chose de plus que la sensation. Rôle de l'opinion. Le rêve n'appartient exclusivement ni à la sensibilité, ni à l'intelligence, ni à l'opinion. Il se rapporte à l'imagination, laquelle n'est elle-même qu'une modification de la sensibilité. Paragraphe 1. Après avoir étudié le sommeil, il faut passer au rêve. Et rechercher d'abord à quelle partie de l'âme se montre le rêve. Est-ce une affection de l'entendement ou de la sensibilité? Les deux seules parties de notre être qui nous fassent connaître les choses. Paragraphe 2. La fonction de la vue, c'est de voir. Celle de l'ouïe, c'est d'entendre. Et en général, la fonction de la sensibilité, c'est de sentir. De plus, il y a certaines choses communes à tous les sens, telles que la forme, le mouvement, la grandeur et autres qualités de même genre. Et il y en a d'autres qui sont spéciales, comme la couleur, le son, la saveur. Or, quand on ferme les yeux et quand on dort, on n'est point en état d'avoir la sensation de la vue. On n'a pas davantage les autres. Ainsi, il est clair que nous ne sentons rien durant le sommeil. Ce n'est donc pas par la sensation que nous sentons le rêve. Paragraphe 3. Nous ne le sentons pas non plus par la simple opinion, car nous ne disons pas seulement que l'objet qui se présente alors est homme ou cheval. Nous disons encore que cet objet est blanc, ou qu'il est beau. Et, sans le secours de la sensation, la simple opinion ne pourrait rien nous dire de tout cela, ni de vrai, ni de faux. Mais c'est là précisément ce que fait l'âme dans les rêves. Puisque nous croyons voir, alors, tout aussi réellement que dans la veille, que celui qui se présentait homme, et de plus qu'il est blanc. Dans le rêve, nous sentons donc encore quelque chose de plus que l'objet, de même que dans la veille quand nous sentons un objet. En effet, souvent, nous ne sentons pas seulement l'objet, mais nous en pensons encore quelque chose. De même aussi dans les rêves, nous pensons quelquefois autre chose encore, au-delà des images qui nous apparaissent. Paragraphe 4. Cela sera parfaitement évident pour quiconque, après le réveil, appliquera son esprit à se rappeler les rêves qu'il a eus. Quelques personnes ont ainsi revu leurs rêves, comme en observant les règles de la mnémonique, on apprend à se représenter les choses proposées. En effet, il arrive souvent à ceux qui prennent cette habitude qu'outre le rêve, ils se remettent encore sous les yeux quelque autre image dans le lieu qui reçoit les images. Paragraphe 5. Ceci prouve bien que la représentation aperçue dans le sommeil n'est pas toujours un rêve et que ce que pense alors notre intelligence, elle en a connaissance par l'opinion. Paragraphe 6. Il est évident encore que pour tous les phénomènes de ce genre, la cause qui fait que, dans certaines maladies, nous nous trompons, même tout éveillés, est aussi celle qui, dans le sommeil, produit sur nous l'impression du rêve. Et même, on a beau être en pleine santé, on a beau savoir fort bien ce qu'il en est, le soleil paraît toujours n'avoir qu'un seul pied de large. Mais, soit que l'imagination et la sensibilité soit dans l'âme deux facultés identiques, ou qu'elles soient différentes, le rêve ne se produit pas néanmoins sans que l'on voie et que l'on sente quelque chose. En effet, mal voir, mal entendre ne peut appartenir qu'à un être qui voit et qui entend quelque chose de vrai, bien que ce quelque chose ne soit pas ce qu'il croit. Mais on suppose que dans le sommeil on ne voit rien, qu'on n'entend rien, en un mot, qu'on ne sent rien. Faut-il donc admettre que, s'il est vrai qu'on ne voit rien dans le rêve, il n'est pas vrai que la sensibilité n'éprouve rien. Mais il se peut que la vue et les autres sens éprouvent alors quelque affection. Chacune des impressions agit à peu près comme si l'on était éveillé, et elle frappe la sensibilité d'une certaine manière. Mais ce n'est pas tout à fait cependant comme durant la véritable veille. Ainsi, tantôt l'opinion nous dit que ce que nous voyons alors est faux, comme elle nous le dit dans la veille, et tantôt elle est saisie par l'image et se laisse entraîner à sa suite. Paragraphe 7. Il est donc certain que cette affection, que nous appelons le rêve, n'appartient ni à la faculté de l'opinion, ni à celle de l'intelligence. Elle ne relève absolument non plus de la sensibilité, car alors on verrait, on entendrait tout à fait. Paragraphe 8. Mais recherchons comment ce phénomène est possible et comment il se passe. Supposons donc, ce qui du reste est évident, que c'est là une affection de la sensibilité, puisque le sommeil en est une aussi. Et en effet, la faculté du sommeil n'appartient pas à tel animal et la faculté du rêve à tel animal différent. Elles sont réunies, toutes deux, dans le même être. Paragraphe 9. Nous avons déjà parlé de l'imagination dans le traité de l'âme, et nous y avons dit que l'imagination est la même chose que la sensibilité, mais que la manière d'être de la sensibilité et celle de l'imagination sont différentes. Nous avons défini l'imagination, le mouvement produit par la sensation en acte. Or, le rêve paraît bien être une sorte d'image, car nous appelons rêve l'image qui se montre durant le sommeil, qu'elle se produise soit d'une manière absolue, soit d'une manière quelconque. Paragraphe 10. Il est donc évident que rêver appartient à la sensibilité et lui appartient en tant qu'elle est douée d'imagination. Chapitre 2. Sommaire. Pour bien comprendre les rêves, il faut étudier les circonstances qui accompagnent le sommeil. L'impression sensible demeure dans les organes après que l'objet sensible a disparu. Loi générale de la transmission du mouvement, soit de translation, soit d'altération. Effet consécutif de certaines sensations trop prolongées. Dans l'acte de la vision, si la vue est passive, elle est certainement active aussi. Singulier effet que produisent les miroirs, les yeux des femmes qui sont dans l'armoire, les vins et les huiles sont affectés à distance par les odeurs. Hallucination et erreur des sens dans diverses circonstances. Effet des passions violentes. La boulette de pain sous les doigts. Paragraphe 1. Ce qui nous fera le mieux comprendre ce que c'est que le rêve et comment il a lieu, ce sont les circonstances qui accompagnent le sommeil. Paragraphe 2. Les choses sensibles produisent en nous la sensation selon chacun de nos organes. et l'impression qu'elle cause n'existe pas seulement dans les organes quand les sensations sont actuelles. Cette impression y demeure même quand la sensation a disparu. Paragraphe 3. Le phénomène qu'on éprouve alors paraît être à peu près le même que celui qui se passe dans le mouvement des projectiles. Ainsi, les corps qui ont été lancés continuent à se mouvoir même après que le moteur a cessé de les toucher, parce que ce moteur a d'abord agi sur une certaine portion de l'air et qu'ensuite cet air a communiqué à une autre partie le mouvement qu'il avait lui-même reçu. Et c'est ainsi que, jusqu'à ce que le projectile s'arrête, il produit son mouvement, soit dans l'air, soit dans les liquides. Il faut supposer encore la même loi dans les mouvements de simple altération. Ainsi, ce qui est échauffé par une chaleur quelconque échauffe la partie voisine, et la chaleur se transmet jusqu'au bout. Il y a donc nécessité que ceci se passe également dans l'organe siège de la sensibilité, puisque la sensation en acte n'est qu'une sorte d'altération. C'est là ce qui fait que l'impression n'est pas seulement dans les organes au moment où ils sentent, mais qu'elle y reste encore quand ils ont cessé de sentir, et qu'elle est au fond, tout comme elle est à la surface. Paragraphe 4. Ceci est bien frappant quand nous avons senti quelque objet d'une manière prolongée. Alors, on a beau faire cesser la sensation, l'impression persiste. Et ainsi, par exemple, quand on passe du soleil à l'ombre, durant quelques instants, on ne peut voir rien, parce que tout le mouvement, sourdement causé dans les yeux par la lumière, y continue encore. De même, si nous arrêtons trop longtemps notre vue sur une seule couleur, soit blanche, soit jaune, nous la revoyons ensuite sur tous les objets, ou, pour changer, nous reportons nos regards. Et si nous avons dû cligner les yeux en regardant le soleil, ou telle autre chose trop brillante, il nous paraît aussitôt que, quel que soit l'objet que nous regardions après, que nous le voyons d'abord de cette même couleur, puis ensuite qu'il devient rouge, puis violet, jusqu'à ce qu'il arrive à la couleur noire et disparaisse à nos yeux. Paragraphe 5. Même le mouvement seul des objets suffit pour causer en nous ces changements. Ainsi, il suffit de regarder quelque temps les eaux des fleuves, et surtout de ceux qui coulent très rapidement, pour que les autres choses qui sont en repos paraissent se mouvoir. C'est encore ainsi qu'on devient sourd par suite du bruit trop violent, et que l'odorat s'émousse par l'action de trop fortes odeurs. Et de même pour tout le reste. Paragraphe 6. Tous ces phénomènes ont lieu de cette façon, évidemment. Paragraphe 7. Une preuve de la rapidité avec laquelle les organes perçoivent même une très petite différence, c'est ce qui se passe dans les miroirs, sujet sur lequel on peut s'arrêter soi-même si l'on désire l'étudier et lever les doutes qu'il peut faire naître. Ce fait des miroirs prouvera également bien que, si la vue souffre quelque chose, elle agit aussi. Quand les miroirs sont parfaitement nets, il est certain que, si des femmes qui sont dans leur moi s'y regardent, il s'étend sur la surface du miroir comme un nuage de vapeur sanguine. Si le miroir est neuf, il n'est pas facile de faire disparaître cette tache. Au contraire, il est facile de l'enlever si le miroir est vieux. Paragraphe 8. La cause de ce fait, c'est, comme nous l'avons déjà dit, que non seulement la vue éprouve quelque chose de l'air, mais aussi qu'elle agit elle-même sur lui et y cause un mouvement, tout comme en cause les objets brillants. La vue, en effet, peut être classée parmi les choses qui brillent et qui ont une couleur. Il est donc tout simple que les yeux des femmes qui sont dans leur moi soient dans une même disposition que toute autre partie de leur corps, puisque les yeux sont aussi remplis de veines. À l'époque des règles, le changement qui survient dans les yeux par suite du trouble général de l'organisation et de l'inflammation sanguine peut très bien échapper à notre observation, mais il n'en existe pas moins. Or, la nature du sperme et celle des règles sont les mêmes. Ces deux liquides agissent sur l'air qui les touche, et cet air communique à celui qui est sur les miroirs et qui ne fait qu'un avec lui, la même modification qu'il ressent lui-même. Puis enfin, cet air agit sur la surface du miroir. Paragraphe 9. C'est absolument comme pour les étoffes. Les plus blanches et les plus propres sont celles qui se tachent le plus vite, parce que ce qui est propre montre vivement tout ce qui l'atteint, et surtout les mouvements les plus faibles. Les reins, par cela même qu'il est parfaitement uni, sans les contacts les plus légers. Or, il faut regarder ce contact de l'air comme une pression, comme un essuiement et le frôlement d'un liquide. Et, quelque léger que soit cet attouchement, il se marque parce que le miroir est très pur. Si la tache ne s'en va pas aisément des miroirs neufs, c'est précisément qu'ils sont purs et unis, car elle entre dans ces miroirs en profondeur et en tous sens, en profondeur parce qu'ils sont purs, et elle se répand dans tous les sens parce qu'ils sont unis. La marque ne reste pas sur les vieux miroirs parce que la tache n'y entre pas autant et qu'elle demeure davantage à la surface. Paragraphe 10. Ceci prouve donc que le mouvement peut être produit par de minimes différences, que la sensation est très rapide et que non seulement l'organe des couleurs souffre quelques modifications, mais qu'il réagit lui-même. On peut citer, à l'appui de cette opinion, les phénomènes qui se passent dans la fabrication des vins et dans celle des parfums. L'huile qu'on a toute préparée prend très vite l'odeur des parfums qu'on a mis près d'elle. Et les vins éprouvent la même influence. Ils contractent les odeurs, non seulement des corps que l'on place près des vases qui les renferment, ou celles des fleurs qui poussent dans le voisinage. Paragraphe 11. Pour en revenir à la question que nous nous étions proposée au début, il faut admettre ce principe qui ressort évidemment de tout ce que nous avons dit, à savoir que, même si l'objet sensible a disparu au dehors, les impressions senties n'en demeurent pas moins dans les organes et y demeurent sensibles. Paragraphe 12. Ajoutons que nous nous trompons très facilement sur nos sensations au moment même où nous les éprouvons. Ceci, dominé par telle affection, cela par telle autre tâche. Le lâche par sa frayeur, l'amoureux par son amour, l'un croyant voir partout ses ennemis et l'autre celui qu'il aime. Et plus la passion nous domine, plus la ressemblance apparente qui suffit pour nous faire illusion peut être légère. On observe aussi que tous les hommes se trompent très aisément quand ils sont sous le coup d'une colère violente ou d'une passion quelconque. L'erreur leur est alors d'autant plus facile qu'ils sont plus passionnés. De là vient aussi que, dans les accès de la fièvre, il suffit de la moindre ressemblance formée par des lignes qui se rencontrent au hasard pour faire croire au malade qu'il y a des animaux sur la muraille de sa chambre. Et quelquefois, ces hallucinations suivent en intensité les progrès du mal. Si l'on n'est pas très malade, on reconnaît bien vite que c'est une illusion. Mais si la souffrance devient plus forte, le malade va jusqu'à faire des mouvements vers les objets qu'il croit voir. Paragraphe 13. La cause de tous ces phénomènes tient à ce que ce n'est pas la même faculté de l'esprit qui est chargée de juger les choses et qui reçoit en elle les images. Une preuve de ceci, c'est que le soleil paraît n'avoir qu'un pied de largeur. Un autre fait que l'on cite souvent pour démontrer les erreurs de l'imagination, c'est qu'une simple superposition des doigts suffit pour nous faire croire qu'une seule chose devient deux, sans que, cependant, nous allions jusqu'à dire qu'il y ait réellement deux choses. Car ici, le témoignage de la vue l'emporte sur celui du toucher. Mais si le toucher était tout seul, nous jugerions que cette chose, qui est une, en est deux. Ce qui cause notre erreur, c'est que non seulement ces apparences se produisent par nous, quand la chose sensible vient à se mouvoir d'une façon quelconque, mais encore quand le sens en est lui-même mis en mouvement et qu'il reçoit un mouvement analogue à celui qu'il aurait reçu de la chose sensible. Je veux dire, par exemple, que quand on est dans un vaisseau en marche, le rivage semble être en mouvement, bien que la vue soit certainement mise en mouvement par une autre chose que le rivage. Chapitre 3. Sommaire. Un certain repos est nécessaire dans le corps pour que le rêve se produise. L'agitation qui est continuelle pendant la veille empêche que le centre sensible ne sente le mouvement qui suit les impressions. Diverses natures des rêves, suivant les organisations et les dispositions. Rapport des rêves aux hallucinations qu'on a durant la veille. Les rêves ne sont que des débris des sensations éprouvées et la conséquence des mouvements donnés aux organes par les impressions sensibles. Moyen de s'en assurer. Perception réelle durant le sommeil, influence de l'âge sur les rêves. Paragraphe 1. Bien des choses prouvent donc évidemment que ce n'est pas seulement pendant la veille que se produisent les mouvements causés par les sensations, soit que ces sensations viennent du dehors, soit qu'elles surgissent de l'intérieur du corps qui les éprouve, mais aussi que ces mouvements se produisent pendant qu'a lieu l'affection spéciale qu'on nomme le sommeil, et que c'est surtout alors qu'ils se manifestent. Paragraphe 2. Dans le jour, en effet, ils sont écartés, et par les sensations qui agissent sur nous, et par l'exercice de la pensée, ils disparaissent comme un petit feu devant un feu immense, comme des maux et des plaisirs légers disparaissent devant des maux et des plaisirs plus grands. Au contraire, quand nous sommes calmés, les choses les plus délicates surnagent et se font sentir. Ainsi, pendant la nuit, l'inactivité de chacun des sens particuliers et l'impuissance d'agir où ils sont, parce qu'il y a reflux de la chaleur du dehors au dedans, ramène toutes ces impressions, qui était insensible durant la veille, au centre même de la sensibilité, et elles deviennent parfaitement claires quand le trouble est apaisé. Paragraphe 3. Il faut supposer que, pareil aux petits tourbillons qui se forment dans les fleuves et que les eaux emportent, chaque mouvement de sensation se répète continuellement. Souvent, ces petits tourbillons se reproduisent de la même manière et souvent, ils sont rompus en formes toutes différentes par les obstacles qu'ils rencontrent et sur lesquels ils se brisent. Paragraphe 4. Voilà pourquoi les rêves ne surviennent pas immédiatement après le repas et pourquoi les enfants très jeunes n'en ont point. C'est que le mouvement causé par la chaleur qui vient de la nourriture est très considérable. C'est tout à fait comme dans un liquide qu'on agite vivement. L'image ne peut pas du tout y paraître. Ou, s'il en paraît une, elle y est toute déformée et dispersée, reproduisant l'objet tout autre qu'il n'y est. Au contraire, quand le liquide est en repos, les images sont nettes et parfaitement visibles. De même aussi quand on dort. Les images qui se forment alors et les mouvements qui restent de la veille et proviennent des sensations sont tantôt tout à fait annulés, quand le mouvement dont on vient de parler est par trop considérable, tantôt les visions qui apparaissent sont toutes terribles et toutes monstrueuses, et les rêves sont malsains et incomplets, comme il arrive aux mélancoliques, à ceux qui ont de la fièvre et à ceux qui ont pris du vin. En effet, toutes ces affections venant des esprits causent dans l'organisation un grand mouvement et un grand trouble. Paragraphe 5. Dans les animaux qui ont du sang, une fois que le sang s'est apaisé et que la séparation s'y est faite, le mouvement qui reste encore des impressions reçues durant la veille par chacun des sens rend les rêves complets et sains. Alors, ils se montrent des apparences distinctes et il semble qu'on voit, grâce aux impressions qui ont été déposées par la vue, qu'on entend, grâce à celle de l'ouïe, et de même pour les impressions venues des autres organes des sens. Paragraphe 6. C'est en effet parce que le mouvement se communique de ces organes au principe de la sensibilité que parfois, même tout éveillé, on croit voir, entendre et sentir certaines choses. C'est aussi parce que la vue semble quelquefois être mue, sans l'être réellement, que nous affirmons que nous voyons. C'est parce que le toucher nous atteste deux mouvements qu'il nous semble qu'une seule chose en est deux. Dans ces divers cas, le principe sensible nous informe simplement de la perception qui naît de chaque sens, à moins que quelque autre sens supérieur ne vienne donner un témoignage contraire. L'apparence se montre donc bien complète, mais l'esprit n'admet pas complètement ce qui se montre ainsi à lui, à moins que la faculté qui juge en dernier ressort ne soit empêchée et n'ait plus de mouvement propre. Paragraphe 7. Or, de même que l'on peut être très aisément trompé, comme nous l'avons dit, tantôt par une passion, tantôt par une autre, de même, quand on dort, on est trompé par le sommeil, par l'ébranlement des organes et par toutes les autres circonstances qui accompagnent la sensation. Il suffit alors de la plus petite ressemblance pour que nous confondions les objets entre eux. Paragraphe 8. Durant le sommeil, en effet, le sang, descendant en plus grande masse vers le principe sensible, tous les mouvements qui se trouvent à l'intérieur, les uns en puissance, les autres en acte, s'y rendent avec lui. Et ces mouvements sont disposés de telle sorte que, dans cette concentration, ce sera tel mouvement qui surnagera au-dessus des autres, et si le premier disparaît, un second prendra sa place. On pourrait d'ailleurs les comparer, dans leur rapport les uns aux autres, à ces grenouilles factices qui montent à la surface de l'eau quand le sel qui les enveloppe est fondu. De même, les mouvements ne sont d'abord qu'en puissance, mais ils agissent dès que l'obstacle qui les empêche a cessé. Et, perdus dans le peu de sang qui reste alors aux organes, ils prennent la ressemblance des objets qui émeuvent habituellement les sens. Comme ces apparences formées par les nuages qui, dans leur changement rapide, semblent tantôt des hommes et tantôt des centaures. Paragraphe 9. Tout cela n'est, ainsi qu'on l'a dit, qu'un débris de la sensation en acte. Et quand la véritable sensation a disparu, il en reste dans les organes quelque chose dont il est vrai de dire, par exemple, que cela ressemble à Coriscus, mais non pas que c'est Coriscus. Or, quand le sens qui juge en maître et prononce définitivement sentait réellement, il ne disait pas que ce fût là Coriscus, bien que ce fût par là qu'il reconnut le Coriscus véritable. Ainsi, certainement pour cette chose dont on disait quand on la sentait qu'elle était Coriscus, on éprouve dans le sommeil, à moins que le sang n'y mette un si complet obstacle, qu'on soit comme si l'on ne sentait pas l'impression des mouvements qui sont encore dans les organes. L'objet semblable paraît être l'objet réel lui-même. Et telle est la puissance du sommeil qu'elle est assez grande pour nous dissimuler ce qui se passe alors. Paragraphe 10. Par exemple, quelqu'un qui ne s'apercevrait pas avoir mis le doigt sous son œil qu'il presse, non seulement verrait la chose du double, toute simple qu'elle est, mais de plus, il croirait qu'elle est double réellement. Si au contraire, il n'ignore pas la position de son doigt, la chose lui paraîtra double, mais il ne pensera pas qu'elle le soit. Paragraphe 11. Il en est de même dans le sommeil. Si l'on sent que l'on dort, si l'on a conscience de la perception qui révèle la sensation du sommeil, l'apparence se montre bien. Mais il y a en nous quelque chose qui dit qu'elle paraît Coriscus, mais que ce n'est pas là Coriscus. Car souvent, quand on dort, il y a quelque chose dans l'âme qui nous dit que ce que nous voyons n'est qu'un rêve. Au contraire, si l'on ne sait pas qu'on dort, rien alors ne contredit l'imagination. Paragraphe 12. Afin de se convaincre que nous sommes ici dans le vrai et qu'il y a dans les organes des mouvements capables de produire des images, on n'a qu'à faire l'effort nécessaire pour se rappeler ce qu'on éprouve quand on est endormi profondément et qu'on est réveillé en sursaut. On pourra en effet, si l'on s'y prend avec quelque adresse, s'assurer en s'éveillant que les apparences qu'on voyait durant le sommeil ne sont que des mouvements dans les organes. Souvent, les enfants voient très distinctement quand ils sont dans les ténèbres beaucoup d'images qui s'y meuvent. Et leur peur est parfois assez forte pour les forcer à se cacher. Paragraphe 13. Nous pouvons donc, d'après tout ceci, conclure que le rêve est une sorte d'image et ajouter qu'il se produit durant le sommeil, car les apparences que je viens de citer ne sont pas des rêves, non plus que ces autres apparences analogues qui se montrent à nous, même quand nos sens sont libres. Paragraphe 14. Le rêve n'est pas non plus toute image quelconque qui se montre durant le sommeil. Car d'abord, il se peut quelquefois que, durant le sommeil, on sente en partie le bruit, la lumière, la saveur, le contact. Mais faiblement, il est vrai, et comme de très loin. Ainsi, bien des gens qui, en dormant, entrevoyaient faiblement une lumière que dans leur sommeil ils prenaient pour celle d'une lampe, ont reconnu aussitôt après leur réveil que c'était bien réellement la lumière d'une lampe. Des gens qui entendaient faiblement le chant du coq ou le cri des chiens les ont reconnus très clairement en se réveillant. D'autres répondent dans leur sommeil aux questions qu'on leur fait. Paragraphe 15. C'est qu'il se peut, pour le sommeil et pour la veille, que, l'un des deux étant absolu, l'autre aussi soit partiel. L'on ne peut dire alors d'aucun de ces deux états que ni l'un ni l'autre soit un rêve, pas plus qu'on ne peut le dire de toutes les vraies pensées qui nous viennent pendant le sommeil, indépendamment des images. Mais l'image produite par les mouvements des impressions sensibles quand on est dans le sommeil et en tant qu'on dort, voilà ce qui constitue vraiment le rêve. Paragraphe 16. Il y a des gens qui n'ont jamais rêvé de toute leur vie. Mais ces exceptions sont fort rares, quoiqu'il y en ait pourtant quelques-unes. Pour les uns, cette absence de rêve a été perpétuelle. Pour les autres, les rêves ne leur sont venus qu'avec les progrès de l'âge, sans qu'auparavant ils en eussent jamais eu. Il faut croire que la cause qui fait qu'on ne rêve pas est à peu près la même que celle qui fait qu'on n'a pas de rêve quand on dort aussitôt après le repas, et que les enfants non plus ne rêvent point. Dans tous les tempéraments où la nature agit de telle sorte qu'une évaporation considérable monte vers les parties supérieures et produit ensuite en redescendant un mouvement non moins considérable, il est tout simple qu'aucune image ne se montre. Mais on conçoit très bien qu'avec les progrès de l'âge, il arrive des rêves, car du moment qu'un changement survient, soit par l'âge, soit par une affection quelconque, il faut aussi qu'il arrive le contraire de ce qui avait lieu auparavant.